France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue dans le 7-9. Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 1er février. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, AstraZeneca va livrer 9 millions de doses de vaccins supplémentaires pour l'Union européenne. Le laboratoire britannique s'était attiré les foudres de Bruxelles en annonçant la semaine dernière des livraisons moins importantes que prévues. On va en parler, Léa, avec votre invité à 7h50.
Oui, quel impact aura cette augmentation de doses pour la France? Pourra-t-on vacciner davantage? L'Europe n'a-t-elle pas été défaillante dans sa gestion des vaccins? On pose la question à Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des questions européennes.
À tout à l'heure, Léa. Agnès, les autres titres.
Des contrôles aux frontières renforcés depuis ce matin et des contrôles renforcés hier soir à 18h sur le périph' parisien. Le soulagement des commerçants qui ne croyaient plus à un sursis. Un nouveau coup d'État militaire en Birmanie. Aung San Suu Kyi arrêtée par la junte. La loi contre le séparatisme arrive à l'Assemblée. Et puis quand un chef d'orchestre texan trouve une famille en France, celle de l'Orchestre National d'Île-de-France.
Et l'invité du grand entretien à 8h20 pour parler notamment de cette loi contre le séparatisme. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le standard est ouvert et vous attend 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc une petite victoire ce matin pour l'Union européenne après plusieurs jours de bras de fer avec le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca. Les livraisons vont finalement augmenter de 30% au premier trimestre. Bonjour Pierre Benazé.
Bonjour Agnès.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles. Alors comment expliquer ce changement de paradigme de la part d'AstraZeneca ?
Alors, dans la pratique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a encore une fois téléphoné au directeur général de AstraZeneca hier. Et même si on n'est pas dans le secret du conseil d'administration du laboratoire anglo-suédois, le plus important pour répondre à cette question, c'est qu'il va y avoir d'une part une extension des capacités de production en Europe et d'autre part une augmentation du rendement. Si les deux sont différenciés, c'est bien que les nouvelles capacités de production seront confiées à de nouvelles usines, de nouveaux sous-traitants sur le territoire de l'UE. Et Ursula von der Leyen a bien insisté sur ce point, une façon de dire que la Commission veut garder un œil sur les quantités produites. Vous parlez de changement de paradigme, Agnès, il faut bien le dire, la Commission n'a eu de cesse de tordre le bras à AstraZeneca, lui imposer d'accepter la publication des contrats vendredi. Il y a eu la mise en place de ce mécanisme de contrôle des exportations vendredi aussi, un mécanisme qui permet aux autorités nationales de chacun des 27 pays de l'UE d'interdire éventuellement les exportations. Et puis il y a ces menaces de procédure de judiciaire en Italie et en Allemagne. Et finalement, AstraZeneca accepte d'augmenter les capacités, de livrer 40 millions de doses, mais on est seulement à la moitié de ce qui était initialement promis au départ.
Merci Pierre Benazé, en direct de Bruxelles ce matin pour France Inter. L'Union européenne qui a toujours pour objectif de vacciner 70% des adultes d'ici la fin de l'été. Et la nouveauté ce matin dans la lutte contre la Covid et ses variants, c'est l'entrée en vigueur de contrôles aux frontières. La France, après le Portugal, l'Allemagne et le Canada, a donc décidé d'interdire l'entrée sur son sol des ressortissants hors Union européenne. Des contrôles sur les routes, dans les gares et les aéroports. Nous verrons comment ça se passe ce matin à Roissy dans le journal de 8h. Des contrôles renforcés aussi en France sur le respect du couvre-feu à 18h. Grosse opération hier soir en région parisienne. Résultat des embouteillages à perte de vue sur le périph. Kathleen Comte a assisté au contrôle Porte d'Orléans entre 18h et 19h30. Reportage.
Coupez le moteur s'il vous plaît, c'est déjà fait. Ok, merci. Rendez-moi le papier du véhicule, permis de conduire. Vous allez à la station de sortie, monsieur, les 18h.
Problème, le conducteur n'en a pas. Il s'est fait surprendre par les embouteillages et pensait arriver à destination avant 18h.
J'ai mis le GPS, j'ai vu 3-4 d'heure et quand je suis arrivé sur la route, il met une heure et quart et ça bouche et voilà quoi. Après je comprends, ils font leur boulot.
Vous en sortez bien, il n'y a pas d'amende au moins.
Oui, je vous remercie d'être généreux et compréhensif surtout.
Compréhensif, les policiers l'ont été au début, juste après 18h. En revanche, Aliane n'a pas eu la même chance. Vers 19h30, sans attestation, les policiers l'ont verbalisé.
Bien sûr, j'étais au courant du couvre-feu, mais malheureusement, je pensais rentrer un peu plus tôt, mais on regarde pas forcément l'heure et il était un peu tard. Et...
vous comprenez ces contrôles quand même pour
Ah oui, bien sûr, heureusement qu'ils sont là pour nous. Hein. Je trouve ça normal.
Ok, la prochaine fois, essayez de vous déplacer avec. Okay. Ça vous évitera une amende de 135 euros.
Car le mot d'ordre, désormais, c'est tolérance zéro. Catherine Morel, commissaire de police.
Dès 18h, tout le monde doit rester chez soi. Il faut avoir vraiment des raisons qui sont propres donc à tout ce qui a été, toutes les dérogations qui sont prévues. Voilà, donc la tolérance est zéro.
Des contrôles qui devraient se répéter car le gouvernement l'a dit, il veut tout faire pour contenir le virus et éviter un nouveau confinement.
Des contrôles, il y en a eu 65 000 pour la journée de samedi et 6 000 verbalisations dressées. Le premier adjoint à la mairie de Paris s'est lui interrogé sur ce type d'action qui, selon Emmanuel Grégoire, n'aide pas à l'acceptabilité des mesures. Près de 20 000 nouveaux cas en 24 heures, des hospitalisations en hausse et un bilan global qui dépasse les 76 000 morts. Vendredi soir, le gouvernement a fait le choix de prolonger le couvre-feu et de retarder un éventuel reconfinement. Si les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² ont dû fermer leurs portes, les petits commerces espèrent bien profiter de ce sursis. Reportage à Bergerac en Dordogne, signé Flavien Groyer.
Dans son magasin de prêt-à-porter, Corinne installe tout juste la nouvelle collection. Pas de reconfinement, une bonne surprise. Elle qui gère 3 boutiques dans le centre-ville de Bergerac.
Je m'attendais presque à fermer mardi. Ça m'a coupé un petit peu dans mon élan, on va dire. Mais là, vous voyez, ça donne un petit peu de baume au cœur.
Car une semaine de tranquillité supplémentaire, ce n'est pas rien.
Une semaine, c'est toujours important. Hein. Le truc, c'est que j'espère surtout qu'on pourra travailler en mars. Moi, février, c'était moins compliqué parce qu'on est dans une période charnière. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est l'avenir quand même. Parce que c'est pas pour autant que je ne suis pas du tout inquiète.
Tous les commerçants de Bergerac en ont conscience. Cette semaine n'est sans doute qu'un sursis. Reculer pour mieux sauter, disent-ils, comme Anne, responsable d'une boutique de vêtements pour enfants.
Je pense que c'est un petit peu un délai que l'on nous donne, mais que l'échéance, malheureusement, arrivera à un prochain confinement.
Et elle espère que les clients seront présents avant une éventuelle fermeture.
Les gens, j'imagine, vont prendre conscience. Une mauvaise nouvelle peut tomber et dans ces cas-là qu'il faut un petit peu plus se retourner vers les centres-villes pour pouvoir nous faire une petite bouffée d'oxygène avant quelque chose qui peut être néfaste pour nous.
Reportage à Bergerac de Flavien Groyer de France Bleu Périgord. La pandémie dans le monde avec un assouplissement du confinement en Italie permettant la réouverture des bars, restaurants et musées jusqu'à 18h dans la plupart des régions, mais les déplacements entre régions restent impossibles. Aux Pays-Bas, les écoles fermées depuis mi-décembre rouvriront lundi prochain, mais pas d'annonce concernant le couvre-feu nocturne qui a provoqué des manifestations parfois violentes la semaine dernière. Et puis Israël décide de son côté de prolonger le confinement pour la troisième fois. Malgré la vaccination d'un tiers de la population, le nombre de contaminations continue d'augmenter. Le confinement est donc prolongé jusqu'au moins vendredi. Et puis c'est une conséquence de la pandémie. L'électricité plus chère en France depuis ce matin, plus 1,6% pour les 23 millions d'abonnés au tarif bleu. Cela représente environ 15 euros de plus par an.
Il est 7h08, Agnès. L'information de la nuit, c'est le coup d'état militaire en Birmanie.
L'armée vient de déclarer l'état d'urgence pour un an après avoir été plusieurs membres du parti au pouvoir et notamment Aung San Suu Kyi, ex-icône de la démocratie birmane. Les militaires affirment agir pour le bien du pays après les énormes irrégularités commises, selon eux, lors des élections législatives du mois de novembre et remportées massivement par le parti d'Aung San Suu Kyi. Correspondance à Bangkok de Carole Izou.
Le raid a eu lieu aux petites heures du matin. Le président de la République, le gouverneur de Rangoon font également partie de cette vague d'arrestations. L'armée a annoncé via la télévision d'État qu'elle s'emparait du pouvoir pendant une période d'un an. Déjà, et malgré une restriction importante des télécommunications dans le pays, les commentaires sceptiques affluent de la part de personnalités birmanes qui voient plutôt là une prise de pouvoir à durée indéterminée. L'événement vient conclure une semaine de fortes tensions dans la capitale Naypyidaw puisque l'armée contestait le résultat des élections de novembre qui avait donné une victoire écrasante à Aung San Suu Kyi et à son parti. Les modalités électorales avaient été, c'est vrai, fortement adaptées à cause de la situation sanitaire. Il y a quelques jours, le chef des armées, Min Aung Hlaing, avait prévenu que si une enquête sur ce qu'il considérait comme des fraudes n'était pas menée, eh bien il faudrait envisager la possibilité d'un coup d'État. Plusieurs ambassades étrangères avaient alors tenté d'alerter la communauté internationale sur la volatilité de la situation. Aujourd'hui, elles condamnent fermement ce qu'il faut bien appeler un coup d'État. Bangkok, Carole Izou, France Inter.
Condamnation également du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque un coup dur aux réformes démocratiques en Birmanie. Et puis en Russie, l'opposant Alexei Navalny doit comparaître aujourd'hui devant la justice après son arrestation le 17 janvier dernier, lors de son retour à Moscou après une tentative d'empoisonnement. Hier, plus de 5000 de ses partisans ont été interpellés lors de manifestations dans plusieurs villes du pays. Des arrestations immédiatement condamnées par les États-Unis, l'Union européenne et le Canada.
Il est 7h10, retour en France. sa nièce sous la loi contre le séparatisme arrive à l'Assemblée.
Les députés ont 2 semaines pour débattre de ce texte sensible, confortant le respect des principes républicains et censé lutter contre l'islam radical et le repli communautaire grâce à une batterie de mesures. Revue de détail avec Julie Pietri.
L'instruction à l'école, d'abord. Le texte veut la rendre obligatoire, sauf exception, en cas de maladie, par exemple. Insulter un enseignant, faire pression sur lui ou ses cours sera passible d'un an de prison. Et en réponse à l'assassinat de Samuel Paty, diffuser des informations permettant d'identifier ou de localiser une personne ciblée sera considéré comme un délit. Au travail, les fonctionnaires ne seront plus les seuls à devoir rester neutres politiquement et religieusement. Seront concernés aussi les salariés des entreprises délégataires de services publics. Ce projet de loi touche aussi aux droits des associations. L'État veut plus de transparence, en particulier quand elle touche aux religieux. Contrôles multipliés, fonds étrangers à signaler, dissolution facilitée. Les associations de loi 1901, donc la plupart des associations musulmanes, devront signer un contrat d'engagement républicain quand elles demandent une subvention. Des mesures qui heurtent les représentants des cultes qui parlent de suspicions inquiétantes à l'égard des croyants, les protestants voyant même dans ce texte une arme de neutralisation religieuse.
À noter que près de 2650 amendements ont été déposés. Le détail de ce texte à découvrir sur franceinter.fr. Et puis Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera tout à l'heure à 8h20 l'invité du grand entretien d'Inter. 25 départements vigilance orange, risque de crue dans le sud-ouest de la Charente-Maritime à la Haute-Garonne, du Puy-de-Dôme aux Pyrénées-Atlantiques, risque de crue également du Pas-de-Calais à l'Eure. Prudence donc, un homme de 70 ans est mort noyé dans les Hauts-de-France hier, pris au piège de la brusque montée de la Sambre. Et puis le trafic ferroviaire a repris dans les Landes ce matin après une interruption hier. Les premiers mots enfin en français du jeune et bouillonnant chef d'orchestre texan qui dirige depuis plus d'un an l'Orchestre National d'Île-de-France. Casé Scaglione a 38 ans, il a déjà enregistré 2 disques, 2 hommages à Beethoven et Wagner qui viennent de sortir sur le label Nomad Music en version numérique. Portrait d'un Américain qui se plaît bien à Paris, Stéphane Capron.
Casey Scaglione a grandi au Texas. Ses racines sont aussi un peu italiennes. C'est en Allemagne que sa carrière internationale a démarré, où il est aussi chef principal de l'orchestre de chambre de Heilbronn. Et en septembre 2019, il arrive à Paris.
Quand je suis arrivé, j'ai parlé rien de français. Bonjour, mesdames et messieurs, et please let's start at the beginning. C'était vraiment terrible. Mais malgré ça, c'était comme trouver pour la première fois depuis des années une famille. Je me sens à la maison avec ce grand orchestre.
7 mois après sa prise de fonction à la tête de l'Orchestre National d'Île-de-France, c'est le premier confinement, puis la reprise des concerts au printemps. Et là, Casey Scaglione mesure sa chance d'être en France.
Grâce à la situation ici en Europe, même si c'était terriblement dur pour les artistes, c'est beaucoup mieux que dans les autres pays. Chez nous, aux États-Unis, c'était une catastrophe. Je suis reconnaissante pour être ici et de pouvoir jouer de concert.
Les 2 enregistrements avec Casey Scaglione à la baguette de l'Orchestre National d'Île-de-France sont disponibles uniquement en version numérique. Il s'agit de la symphonie numéro 3 de Beethoven et une compilation autour de l'œuvre de Richard Wagner.
Et un extrait de la Valkyrie de Wagner, justement. Prochain concert dirigé par Casey Scaglione en live sur le site de l'Orchestre National d'Île-de-France. Légende slave, et ce sera samedi à 19h.
Merci Agnès Soubiran.